rapport des préfets, 1806, 11, 12, à Marseille, à Bordeaux, placard dans les rues basses, du pain ou la mort. Les suicides sont fréquents. Les manufacturiers, dans l'année 1811 et 1812, s'inquiètent et disent « il nous faudrait un code spécial ». Un code spécial du travail, je cite, « pour maintenir l'ordre et la subordination et garantir les fabricants les manœuvres coupables de leurs ouvriers ». Comme préfet de Paris, Napoléon a Pasquier, et Pasquier lui dit qu'il faut surveiller de très près le compagnonnage. Compagnonnage, c'était des sociétés de secours mutuels que les ouvriers établissaient entre eux. Et Pasquier, dans une note à Napoléon, lui dit « le but apparent du compagnonnage est le secours mutuel, le but véritable est de s'imposer au maître ». Passons-en à ce que j'appelle l'essentiel et qui est vraiment l'essentiel, à savoir le rendement de la maison de commerce. Enfin, Napoléon ne travaille pas pour rien. Tout réaliste travaille pour faire des bénéfices. Et bien, quels sont les bénéfices de Napoléon et comment gère-t-il ses finances? À bien des reprises, il a dit la première des affaires de l'État, c'est les questions de finances. Et là-dessus, il a un certain nombre d'idées. Première idée, il faut satisfaire la clientèle. Et qu'est-ce que c'est que la clientèle pour lui? Ce sont les notables, ce sont les gens riches, puisqu'il est le délégué des possédants. Alors, il ne faut surtout pas importuner les possédants. Il va leur promettre que jamais il ne fera d'emprunt, parce que ça rappelle cet ancien régime qui avait si mal tourné, il va leur promettre qu'il ne fera jamais de papier-monnaie et il va perpétuellement diminuer l'impôt foncier. Parce que l'impôt foncier, ça concerne les riches. Je vous ai dit comment il avait fait pour compenser ça, il avait créé des droits réunis, c'est-à-dire des indirects. En 1806, il va ajouter aux droits réunis le droit sur le sel, ce qui rappelle dangereusement la gabelle. Il a un petit peu peur que ça passe mal, mais enfin, il écrit, il dit ceci, « J'ai mes gendarmes, j'ai mes préfets, j'ai mes prêtres, si on remue, je ferai pendre 5 ou 6 rebelles et tout ira bien. » Alors, il faut regarder le chiffre des droits réunis, parce que d'année en année, ça va être plus lourd. En 1808, il tire de la population française, par les indirects, 82 millions. 1808, 82 millions. 1809, 106 millions. 1811, 128 millions. 1813, 189 millions. Donc, en 1813, prélèvement sur la France de plus du double de ce qu'elle versait 5 ans plus tôt. Sa gentillesse à l'égard de la Banque de France continue à être extrême. La dernière fois, je vous ai parlé un peu trop rapidement de ce qui s'était passé en 1805. Il faudrait qu'en 2 minutes, je vous l'explique. Quelque chose d'assez inouï. Je vous avais parlé de la compagnie des négociants réunis. Les négociants réunis, il y avait Ouvrard, qui n'était pas de la Banque de France, mais il y avait Després, qui était un régent de la Banque de France. Donc la Banque de France était tout de même représentée chez les négociants réunis. Ces négociants réunis avaient obtenu le monopole de la vente du blé à l'Espagne. Et c'était déjà assez bien parce qu'ils achetaient le blé 18 francs le quintal, ils le vendaient 26 francs le quintal, enfin le bénéfice était jeune. Mais les négociants réunis avaient une autre idée. Peut-être vous vous souvenez que Napoléon avait imposé 6 millions par mois à l'Espagne, comme ça il fallait payer 6 millions. Alors comme le roi d'Espagne était assez embêté pour trouver ces 6 millions, la banque, enfin les négociants réunis avaient dit « Nous allons nous substituer à vous, roi d'Espagne, c'est nous qui allons payer les 6 millions mensuels. Mais en échange, on aura le monopole de votre commerce, du commerce espagnol avec l'Amérique latine. » Ça marchait bien, puisqu'il se procurait la piastre à 3,75 francs à Madrid et qu'il la refilait au trésor à 5 francs. 1,25 francs sur la piastre, sur chaque piastre, c'était quelque chose. Finalement, ça n'avait plus marché parce que les galions n'arrivaient pas, parce qu'il y avait la guerre maritime, si bien qu'ils avaient réalisé ce que j'ai appelé l'autre jour un coup fumant. Ils étaient arrivés, ces banquiers, à obtenir de la Banque de France une avance, de la Banque de France qui s'adressait elle-même au trésor, une avance de 105 millions. C'était le trésorier Barbé Marbois qui faisait le coup. Napoléon avait été furieux, bien entendu, mais on ne touche pas à la Banque de France. Et il avait même dit, il faut la soutenir à tout prix. J'arrêterai plutôt la solde de mes armées. Savez-vous comment il se comportera une fois qu'il aura découvert ces 105 millions que son trésor a versés à des négociants? Eh bien, il va frapper Ouvrard, parce qu'Ouvrard n'est pas de la Banque de France et qu'il ne l'aime pas. Quant à la Banque de France, pour l'opinion publique, il va lui mettre un gouverneur, qui est un conseiller d'État. Mais attention, pas un gouverneur qui sera un fonctionnaire, un gouverneur qui sera payé par la banque, avec deux autres banquiers, Rodier et Thibon. Et le Créteil va être tellement bien comme gouverneur de la Banque de France que quand il sortira, la banque lui donnera une médaille d'or. Quant à la banque elle-même, il va l'autoriser à porter son capital à 90 millions et il va lui prolonger son privilège d'un demi-siècle. Il veut persuader aussi à l'opinion publique que la guerre rapporte. Et il va même déclarer ceci, la guerre est la source de la richesse nationale et de la renaissance du crédit public. Alors comment ça se fait que le budget de la guerre ne cesse de croître, qu'il est passé de 360 millions en 1807 à 816 millions en 1813. Parce que la guerre rapportait, en effet, énormément. Mais à qui? La guerre rapportait exclusivement à l'empereur. Et nous touchons là le fond des choses. Napoléon est quelqu'un qui fait de l'argent, personnellement, dans des conditions terribles et dans des conditions énormes, par les indemnités qu'il pompe sur l'étranger. Il a fait créer d'abord ce qu'il appelle son trésor de guerre, qui deviendra son domaine extraordinaire. Il fait croire que ce trésor de guerre s'appellera le trésor des braves, c'est-à-dire qu'il y puisera de l'argent pour des récompenses. C'est vrai, il va donner 11 millions d'un seul coup, 11 millions de rentes à ses maréchaux après qu'il cite. Mais l'énormité, 743 millions entrés entre 1805 et 1810, l'énormité de ses ressources, c'est pour lui. C'est son or, c'est ce qu'il met de côté. Il a entassé cet or aux Tuileries, dans les caves des Tuileries. Nous ne pouvons pas connaître, car La Bouillerie n'a été le directeur de ce trésor secret que pendant quelques années, et après, on ne sait plus qui l'a géré. On ne peut pas connaître le chiffre exact de ce qu'il avait là accumulé. Mais je sais simplement qu'il va se vanter le 24 mars 1811, Napoléon, devant les principaux négociants de Paris. J'ai fait venir de l'étranger, enfin des impositions étrangères, environ 1 milliard. Et il avouera aussi à Bertrand, oui, j'avais 300 millions en or, mais j'avais toutes sortes d'actions à côté, plus de 400 millions. C'est ça, son trésor. C'est pour ça qu'il a travaillé. Alors, quand je lis dans le texte de M. Bainville, il tenait peu à son trône, peu à l'existence et pas du tout à l'argent. Ou quand je lis chez M. Mauroy, qui est cependant fort respectable, « Jamais homme ne disposa de plus d'argent et ne s'en attribua moins », je suis stupéfait. En réalité, il s'est attribué des sommes colossales. C'est sa réserve. C'est la maman Laetitia qui lui disait « Pour vous que ça dure, alors par conséquent, accumule au cas où tu ne serais plus empereur. Pour l'instant, ça va. » Ces bains qu'il prend, vous savez, ces bains interminables dans sa baignoire de marbre, quand il est plongé dans ce bain, il a l'impression qu'il est dans de l'or tiède. Le bonheur tel qu'il le conçoit est à ce moment-là réussi pour lui. Il a réussi sa vie, délice des délices, suprême volupté.